Vous pouvez vous mettre sur Google Maps si vous avez l'appli. Concrètement, ce que vous allez voir maintenant, c'est votre historique selon Google. Tous les endroits où vous avez été, et aussi quand vous prenez des photos, cela indique votre localisation. Nous pouvons voir où vous vivez, ce que vous avez fait et où vous vous êtes déplacé ce jour-là. Ce n'est pas bon. Non, vous ne le saviez pas? Je ne le savais pas. C'est inquiétant. Si vous allez sur vos paramètres, il y a une option, votre timeline. Cela ne dit pas grand-chose, mais si vous cliquez dessus, alors cela vous indique où vous vous êtes rendu toute la journée. C'est effrayant. Vous ne le saviez pas? Non, je ne sais pas comment ils utilisent ces données, seulement pour des raisons commerciales ou autres. Je ne sais vraiment pas, et quand je ne sais pas, cela m'inquiète.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, faut-il craindre un avenir sans intimité? Le monde change et pour saisir l'ampleur de ces évolutions, deuxième épisode d'une série de 4 sur l'ubérisation de nos vies. Des nouvelles technologies à la bioéthique, des réseaux sociaux au progrès médical, nos intimités sont-elles en danger? On en parle à l'occasion de la parution aux presses universitaires de France de l'ouvrage consacré à cette question que notre invitée, la psychiatre et psychanalyste Muriel Flistreve, a co-dirigé avec René Friedman, l'obstétricien qui vous donne régulièrement matière à penser sur France Culture. Ensemble, ils ont créé l'écologue Gypsy et travaillent année après année sur des thèmes comme les limites, l'intranquillité ou encore la mémoire, l'an passé. Muriel Flistreve, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. En 2010, Mark Zuckerberg, monsieur Facebook, rétrograde l'intimité au rang de concept dépassé. Est-ce que les résultats de ce colloque que vous avez organisé le mois dernier lui donnent raison?
D'une certaine façon, oui. Si on considère, avec Michel Perrault, qui était une des oratrices de ce colloque, que l'intimité s'est construite lentement, progressivement, que ça a été une bataille, que ça a été des combats dans l'histoire, et que enfin on est arrivé à avoir un droit à l'intimité, on s'aperçoit aujourd'hui que cette intimité, elle est ouverte à tous les vents. Alors pourquoi elle est ouverte à tous les vents ? D'une certaine façon, il suffit de faire un clic pour avoir une connaissance sur son voisin, sur un anonyme, sur quelqu'un de célèbre. Il suffit de involontairement laisser des traces par les achats qu'on fait sur Internet ou par les recherches qu'on fait sur Google. Tout ça, c'est involontaire. Mais volontairement, on participe aussi à cette ouverture de l'intimité. Tous les posts qu'on fait sur Instagram, sur Facebook et qui donnent à voir beaucoup de choses de notre intimité, nos repas, nos anniversaires, nos vacances, tout ça participe à l'ouverture de soi sur son intimité. Alors il y a aussi autre chose de peut-être plus grave qui est qu'on ne se rend pas compte de toutes les données personnelles, les données intimes qui sont justement collectés par tous ces géants de l'Internet et qui vont faire quelque chose de ces données, et on ne sait pas quoi. Et au fond, là, c'est toute notre intimité qui est livrée à des gens qu'on ne connaît pas et on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Oui, on peut craindre.
Alors hier, c'était l'État. Aujourd'hui, ce sont les GAFA qui s'intéressent effectivement à nos données personnelles. Poster sur Instagram une photo de son repas ou les premiers pas de son enfant. Publier sur Facebook une photo de soi en maillot sur une plage paradisiaque. Faire son coming out face caméra ou révéler ses préférences sexuelles. Ça fait peut-être partie des traits de l'époque. On écoute la youtubeuse californienne Ingrid Nielsen.
I'm doing this.
Allez, je me lance.
Right. I guess I am just going to.
Très bien. Je suppose que je vais aller droit au but.
There's something that.
Il y a quelque chose que.
Want you to know.
Que je voudrais que vous sachiez.
And that something is.
Et c'est que.
I'm gay.
Je suis gay.
It feels so good to say.
Ça fait tellement de bien de le dire.
I'm shaking right now because
je tremble maintenant parce que
this moment is real.
Ce moment est vrai.
And it's here.
Il est là.
And I've been waiting for this all the time.
Et je l'ai attendu tellement longtemps.
Muriel Flistreve, à qui s'adresse-t-elle pour vous, Ingrid Nielsen, dans cette vidéo?
Ben, je pense qu'elle s'adresse à la communauté à qui elle a envie de parler, et c'est très intéressant qu'elle ne puisse pas le faire ailleurs que sur Internet. Et Serge Tisseron en parle très bien d'ailleurs dans le livre Intimité en danger. Il montre à quel point certaines personnes ne peuvent pas le dire en famille, ne peuvent pas le dire à des amis, et vont le dire sur Internet. Et sur Internet, alors, on ne sait pas qui est-ce qui va le savoir. Ce n'est pas sûr que la famille va le savoir. Mais en tout cas, c'est possible. En tout cas, elle ne peut pas le dire en famille.
En tout cas, nous le savons. Nous qui ne la connaissons pas, qui faisons partie de cette foule d'anonymes, on a accès à cette information qu'elle choisit de donner d'elle-même. Elle dit c'est réel. C'est réel ce qui est en train de se passer. C'est étonnant cette intrusion de la réalité dans le virtuel.
Oui, c'est très intéressant parce que la plupart des gens souvent disent que sur Internet, en fait, les gens ne se montrent pas, ne disent pas vraiment leur intimité, ils se mettent en scène. Et je trouve que finalement, c'est pas parce qu'on se met en scène que ça n'est pas vrai. Et cette façon de se mettre en scène, c'est une autre façon de gérer sa propre réalité. Et cette mise en scène, elle fait aussi partie de la réalité des gens.
Alors, ce qui est intéressant dans cet ouvrage collectif, qui est un recueil de contributions sur cette question de l'intimité, voire des intimités, puisque vous avez choisi d'y mettre un S, c'est que chacun regarde cette question à travers sa discipline, sa spécialité. Quelle est pour vous la définition, on aurait peut-être dû commencer par ça, de l'intimité? Quelle définition vous nous en donneriez, Muriel Flistrève?
Ben, je pense que c'est un espace intime, personnel, un espace psychique évidemment, qui est très utile et qui est très important, qui se construit petit à petit dès l'enfance, dès les relations avec sa mère. Et c'est très important que cette intimité puisse exister parce que elle est la condition de son identité et de son narcissisme primaire. C'est-à-dire que la mère, dès le départ, dans les relations avec son enfant, elle fait en sorte, effectivement, de donner tout ce qu'il faut à son enfant, de la nourriture, des câlins, des soins, et aussi de l'échanger. Et on voit très bien comment une mère, d'emblée, par exemple, un exemple tout bête, pour les soins d'urine et du reste, elle va aller dans un endroit retiré, elle, toute seule, avec l'enfant. Et toutes ces petites choses qui font l'intimité vont faire que l'enfant va se construire, va avoir la capacité d'acquérir un espace psychique personnel, de penser, qui n'est pas celui de sa mère, et où il va pouvoir avoir ses secrets. Mais sa mère aussi a ses secrets.
Alors, qu'est-ce que l'intimité sur cette question-là? Chacun apporte, je le disais aussi, ses réponses. L'expression « mur de la vie privée » aurait été inventée par Talleyrand ou par Stendhal et aurait pris corps en 1820. Ça, c'est ce que nous rappelle l'historienne Michel Perrault dans sa contribution. « À quoi bon murer aujourd'hui une vie privée qui s'étale au grand jour ?» se demande-t-elle. « Dans ce nouveau monde, le droit au secret est à réinventer. » On revient loin. C'est un espace pour vous aussi, un espace à soi à conquérir ou à reconquérir cette intimité?
Ben, je pense que oui, effectivement, cet espace est à reconquérir. Et d'ailleurs, on n'a qu'à voir la façon fracassante dont c'est invité depuis un an ou deux, hashtag MeToo, c'est-à-dire comment on a pénétré l'univers de l'intimité, des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants. Je pense que là, on a vraiment accès à l'intimité, mais en même temps pour la critiquer et pour en refaire autre chose.
C'est-à-dire que là, ça peut avoir du bon aussi.
Là, ça peut avoir du bon. Je pense qu'il y a des moments où c'est vital qu'il y ait une divulgation de cette intimité.
Mais comment mesurer? Comment savoir? Quand est-ce qu'on dit? Quand est-ce qu'on ne dit pas?
Bah, c'est par rapport à la violence qu'on reçoit ou qu'on exerce. Et je pense qu'il est plus possible aujourd'hui de se faire manipuler sous prétexte qu'on est une minorité ou qu'on est faible. Et je crois que cette divulgation de la violence, de cette divulgation des secrets, qui étaient des secrets extrêmement bien gardés, est tout à fait fondamentale.
Alors ce choix de partage de son intimité aussi à travers un mouvement politique, comme le mouvement MeToo, c'est aussi permettre à d'autres de prendre conscience que cette intimité, qu'elle violentait, peut aussi trouver écho chez d'autres personnes. C'est un partage qui se joue à ce moment-là.
D'abord parce que ça fait, il y a une contagion, il y a des gens qui réalisent et qui n'avaient pas les possibilités de réaliser que eux aussi sont dans une position d'être sous emprise, sous manipulation, ce qui fait que ça donne la parole à des gens qui ne l'avaient jamais. Et faire comprendre que enfin ils ont droit à une intimité qui ne doit pas être partagée avec n'importe qui. Parce que l'intimité, ce qui est important, c'est que c'est une relation, elle se fait avec l'autre, mais elle se fait avec l'autre qu'on choisit, qu'on nomme.
Il y a eu d'autres hashtags dans les dernières années, oui. À côté du hashtag MeToo ou balance ton porc. Il y a eu le hashtag paye ton utérus ou paye pas ton gynéco, de la part de femmes qui racontaient, signalaient avoir été victimes de violences de la part du milieu médical. Mmh. Là, c'est intéressant de lire, par exemple, aussi la définition que donne de l'intimité le gynécologue Frédéric Chiche, pour qui la consultation de l'intime ne doit pas se transformer en consultation intime. Il souligne, lui, la ligne de crête sur laquelle évoluent aussi les professionnels à la fois de la gynécologie, de l'obstétrique, de l'assistance médicale à la procréation ou du diagnostic prénatal. Ils sont où, en fait, ces professionnels ? Lui dit entre le secret et le dévoilement.
Mais je pense que les gynécologues, les sages-femmes ont tous affaire avec cette intimité. Et effectivement, le problème de la juste distance, le problème de la violence qu'on exerce sur les femmes au moment de la consultation ou au moment d'un accouchement, enfin, les femmes ont pu dire ce qu'elles ressentaient, mais je pense qu'elles l'ont toujours dit. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas été entendues. Effectivement, alors là aussi, on peut se dire que peut-être grâce aux réseaux sociaux, grâce au fait que ça puisse se partager dans une communauté de femmes, enfin, les hommes entendent qu'il y a quelque chose qui se passe mal et qu'il y a des violences qui sont faites. Il ne faut pas non plus tous les accuser, parce que je crois que dans les textes qu'on a dans ce livre, d'une part Frédéric Chiche, qui est gynéco-obstétricien, montre à quel point il est attentif à la consultation et à la distance qu'il a avec ses patients. Mais il y a aussi un autre gynécologue qui est Elie Azria, qui donne une contribution très intéressante, parce qu'il montre à quel point, finalement, on a affaire avec le désir. Et son émotion face aux patientes, il n'a pas honte d'en parler et de dire à quel point il est troublé dans la relation avec ses patientes et comment il essaye de s'en sortir, justement en n'omettant pas de penser qu'il y a du désir, mais en essayant de le ranger autrement et de s'en servir autrement pour sa consultation. Mais au moins, il a l'audace de pouvoir le dire.
Ce qui peut se passer aussi sur le divan d'un psy, quand bien on sûr. Évoque l'idée du transfert, cette idée aussi qu'il peut y avoir un échange entre le professionnel, etc. Mais la question est la limite et les bonnes pratiques.
Exactement.
Quand on est face à une personne, parce que le professionnel est quand même celui qui a le pouvoir, a l'autorité en tout cas dans ce rapport-là, et le ou la patiente est dans une position de fragilité, puisque aussi dans une position de dévoilement.
Oui, et c'est pour ça qu'il y a tout ce mouvement d'égalité et de retrouver une place où les deux partenaires sont égaux, même s'il y en a un qui sait plus que l'autre, ce qui n'est pas toujours sûr parce que maintenant les patientes sont très informées.
Les patientes sont très informées et pourtant, il continue à y avoir des dérives, des cas. Mais là, ça nous éloigne un peu de ce qu'on évoquait sur cette intimité bousculée par les nouvelles pratiques aujourd'hui. Juste une question sur nos origines, parce que à travers la question de l'hérédité, de la descendance, il y a un droit qui est en train de s'imposer, un droit à savoir d'où l'on vient, de qui l'on tient, de quoi nous sommes porteurs aussi. Un droit aux origines, avec aussi des progrès fulgurants de la médecine et de la génétique de ce côté-là, des tests qui peuvent nous révéler beaucoup de choses sur nos antériorités. Est-ce que vous trouvez bien que ces tests génétiques soient aujourd'hui de plus en plus encadrés ?
Alors, il y a deux questions dans ce que vous dites. Il y a
toujours.
À la fois, toujours, c'est très complexe. Il y a à la fois le fait que des enfants nés par procréation médicalement assistée et par un don, hein, un don, puisque en France c'est anonyme, n'ont pas accès à leurs origines. Il y a tout un mouvement qui se fait aujourd'hui pour la recherche et le droit à avoir accès à ses origines. Et je pense que c'est très important pour les enfants, pour se constituer des enfants d'ailleurs qui sont devenus adultes, d'avoir la possibilité de savoir de qui on vient, de qui on est né. Ça fait partie de son histoire et je crois que c'est tout à fait légitime et important et essentiel pour se constituer, pour constituer son identité. D'autre part, je pense que au-delà de ça, effectivement, il y a toute le progrès de la génétique et des tests ADN qui ont permis à certains enfants nés par PMA et dons d'ovocytes ou de sperme d'ailleurs, de retrouver des frères, des sœurs et même le donneur. Donc, il y a toute cette transparence qui, de toute façon, est là et
enfin, qui est discutée quand même aujourd'hui.
Et oui, mais les tests génétiques, c'est autre chose. Quand vous parlez des tests génétiques par rapport à des maladies, par exemple, je crois que il faut le faire avec beaucoup de précautions. Comme le dit d'ailleurs Stanislas Lyonnais dans le livre, il montre à quel point c'est pas toujours facile d'apprendre ce qu'on ne savait pas sur soi. Et certains tests montrent une possibilité d'avoir une certaine maladie, peut-être dans l'avenir, qui se manifestera ou qui ne se manifestera pas. Et donc, c'est plutôt assez dangereux de le savoir. Par contre, il y a des gens qui sont atteints ou porteurs d'une maladie génétique et qui ont besoin de savoir pour leur descendance si celle-ci sera atteinte ou pas. Et là, les tests sont très importants. C'est des questions très compliquées et très complexes.
Mais qui travaillent aussi cette question de l'intimité.
Absolument, parce que le généticien est en prise avec l'intimité de la famille.
Invité jusqu'à 13h30, la psychanalyste et psychiatre Muriel Flistrev, qui a co-dirigé avec René Friedman un ouvrage collectif, Intimité en danger. Il vient de paraître aux Presses universitaires de France. 13h13 sur France Culture.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Et vous présentez Muriel Flistrev avec les auteurs de cet ouvrage collectif, l'intimité comme une longue quête, voire une conquête de l'histoire. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, nous semblions collectivement tenter de remettre cet acquis en question? Est-ce que vous avez une ébauche de réponse? Qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment?
Ce qui est en train de se jouer, c'est la place du secret, la place de l'intimité, la place de son jardin personnel. Est-ce que on est capable de ne pas communiquer aux autres ce qu'on n'a pas envie de communiquer? Est-ce qu'il y a une place pour ça? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut garder une discrétion?
Est-ce qu'on le souhaite? Ce rapport à l'intimité, il a beaucoup évolué avec les nouvelles technologies. Il y aurait désormais une part de nous qu'on choisit d'exposer. C'est ce qu'évoque dans ses pages Serge Tisseron. Il l'appelle l'extimité.
Sur les chats, les forums, les blogs, en fait, c'est autre chose qui se passe. La plupart d'entre nous y vont pour proposer à des interlocuteurs inconnus ou parfois connus des aspects de leur intimité dont ils ne connaissent pas encore vraiment la valeur. C'est ce que j'ai appelé le désir d'extimité en 2001, à une époque où ça passait par la télé-réalité, ça passe aujourd'hui par Internet. Ce désir d'extimité, c'est tout simplement le désir d'extérioriser des fragments de son intimité de façon à les faire reconnaître et valider par d'autres. Et là, on voit tout de suite qu'aujourd'hui, en fait, l'extimité ne s'oppose pas à l'intimité, bien sûr, mais que intimité et extimité ne peuvent se comprendre que si on les articule avec un troisième terme, qui est l'estime de soi. Qu'est-ce qui fait qu'autant de gens vont sur Internet raconter des morceaux de leur intimité, donc satisfaire à ce désir d'extimité? Pourquoi y vont-ils? Ils y vont parce qu'ils pensent que ça va renforcer leur estime d'eux-mêmes.
Alors avant, on allait chez le psy pour tenter de retrouver un peu d'estime de nous-mêmes. Aujourd'hui, on poste des fragments de nos vies, de nos intimités, pour tenter d'obtenir cette reconnaissance des autres, y compris d'une foule anonyme.
Bah, j'ai l'impression que, effectivement, les gens qui vont poster sur Internet des fragments de leur vie, pour une espèce de popularité virtuelle, hein, qui parfois est au-delà de l'amitié vécue, hein, qui est assez intéressant, et qu'ils ont besoin d'avoir une célébrité passagère ou l'illusion d'être célèbre, d'avoir des gens qui approuvent, et tout ça est d'ailleurs fonction des likes, des followers, des abonnés, et on a l'impression que finalement leur transparence est très importante parce que c'est une façon de se faire connaître.
Merci. Vous comprenez, vous, ce mouvement de la société, où est-ce que ça vous alerte, ça vous alarme d'une certaine manière, et vous voyez peut-être venir dans votre cabinet le retour de bâton de cette notoriété éphémère, de cette popularité recherchée?
Moi, ça m'alarme beaucoup. Et quand Serge Tisseron parle de l'extimité, c'est-à-dire au fond de ce désir d'être, de montrer son intimité, il l'oppose à l'exhibitionnisme. Et je ne suis pas vraiment d'accord avec lui parce que je pense que ce qui se montre sur Internet, c'est plus quelque chose de l'ordre de l'exhibition. Parce que c'est très répétitif, c'est très codifié. Et finalement, les gens qui postent des choses sur Internet montrent certaines choses d'eux, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, effectivement, c'est peut-être une mise en scène de soi, mais cette mise en scène de soi, elle fait partie du réel de soi. Et c'est là où on a l'impression que peut-être, effectivement, l'estime de soi se fonde sur ça. Et c'est une estime de soi qui est un peu virtuel, évidemment. Et alors, est-ce que ça ne va pas aboutir à, après, dans la vie réelle, à une prise de conscience d'un vide narcissique, effectivement. Et c'est ce vide narcissique qui est rempli par ce qu'on poste sur Internet.
En même temps, on ne montre de soi que ce qu'on a envie de montrer. C'est Frédéric Chiche qui parle d'une intimité de devanture, celle qu'on met en scène sur Internet.
Oui, mais comme je disais, je crois que c'est pas par hasard ce qu'on met de soi. Et ce qu'on met de soi, c'est ce qu'on décide, et on a cette possibilité-là avec Internet. Et finalement, oui, on se met en scène, mais ça représente quelque chose de son réel.
Est-ce que tout ça, c'est vraiment nouveau, Nathalie Azoulay, qui contribue également à cet ouvrage « Intimité en danger », nous rappelle qu'à travers la fiction, les écrivains, puisqu'avant, hier, Internet n'existait pas, ont toujours aussi raconté des parts d'eux-mêmes, ont mis en scène leur jeu à travers la fiction. C'était simplement peut-être la question de l'échelle qui a beaucoup évolué aujourd'hui avec les réseaux sociaux.
Ça a beaucoup changé aussi en littérature, parce que Nathalie Azoulay, qui effectivement critique beaucoup le côté confession, témoignage, qu'elle retrouve beaucoup dans les livres, enfin elle les critique avec envie d'ailleurs, souvent, mais pour dire à quel point c'est pas ça la littérature, n'empêche que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que dans la littérature, beaucoup de gens se parlent de leur vie, ont envie de parler de leur biographie, ont envie de parler de leurs expériences. Quand on voit Émilie Turquem qui fait un très joli livre sur son accueil d'un migrant chez elle pendant un an et qui décrit comment ça se passe, c'est absolument fabuleux, la proximité qu'ils arrivent à avoir tous les deux, le fait que ce migrant va devenir quelqu'un qui fait partie de la famille et dont elle note tous les bruits, tout ce qui se passe entre eux, c'est absolument magnifique. À l'opposé, on retrouve Anna Krish qui a parlé de sa grossesse, de son embryon, d'une façon extrêmement ouverte et un peu indécente. Mais comme elle dit, finalement pour elle, la littérature c'est un règlement de compte. Et le règlement de compte, dans le règlement de compte, il y a à la fois la dette et à la fois régler un compte avec sa famille, avec son amant, avec son fils peut-être.
Et alors, est-ce que dans toutes ces intimités exposées aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il n'y a pas aussi une forme de règlement de compte avec soi ou avec la société ?
Il y a sûrement une forme, en tout cas, de règlement qui se joue entre soi-même, parce que finalement, dans la façon de s'exposer, on peut, sans être forcément critiqué, dire tout ce qu'on a à dire. Et on le dit à un interlocuteur qui va bien vouloir être cet interlocuteur-là, c'est-à-dire imprécis, quelqu'un sur qui va arriver cette information et qui va approuver ou désapprouver. Et ce qui est important, en fond, c'est le retour. Je crois qu'il y a beaucoup d'internautes qui attendent le retour.
L'intimité, un espace à toi, à soi et à toi. Je vous propose d'écouter une autre voix, celle de Mona Chollet, essayiste et journaliste au Monde Diplomatique, qui publiait Chez soi, une odyssée de l'espace domestique. Elle montrait les évolutions, là encore, les conséquences des réseaux sociaux d'Internet sur cet espace jusqu'ici très abrité, qui était aussi un espace intime, celui de l'espace domestique.
On peut plus parler de la maison simplement comme le faisait Bachelard à l'époque. Enfin, c'est une dimension qui reste vraie à mon avis, mais aujourd'hui j'ai l'impression que l'atmosphère domestique a été complètement, enfin pour moi en tout cas, elle a été complètement transformée. Pas tant par Internet en tant que tel que par les réseaux sociaux, parce que s'il y a ce côté très particulier du fait que les autres sont toujours là, en fait, ils sont toujours dans la pièce avec vous à partir du moment où vous connectez, vous êtes envahi de présence, plus ou moins amicale, drôle, agressive, enfin, tout ce que... C'est comme si on déclenchait un concert de voix différentes qui se mettent presque à résonner dans la pièce. Et on se retrouve aussi enchaîné dans une certaine mesure au temps des autres, c'est-à-dire que... c'est très tentant de tout d'un coup se dire tiens bah je m'ennuie un peu, je vais aller voir ce qu'ils font, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils racontent, où ils sont, et on peut très facilement, je crois, se laisser emporter, en fait, engloutir par ce temps commun et perdre dans une certaine mesure le quant à soi et l'indépendance qui sont quand même un des grands bénéfices du fait d'être chez soi.
Voilà, être en permanence capté par l'extérieur, y compris chez soi, c'est la fin de la solitude, et ça c'est grave.
Enfin, c'est la fin de la solitude, c'est quand même une solitude d'être avec Internet, tout le temps branché. Mais ça me faisait penser à ces box qui écoutent et à qui on donne un ordre d'allumer la lumière ou d'éteindre la lumière. Et il y avait Titiou Lecoq qui avait dans son blog, Titiou Lecoq qui parle et qui écrit dans le livre.
Et qui est journaliste et qui contribue notamment à Slate.fr.
Et qui montrait combien les parents étaient effrayés de voir que leur enfant parlait à la box d'une façon très désagréable. Et donc la question se posait de savoir s'il fallait être très poli avec la box quand on lui donnait un ordre, ou s'il fallait être tout à fait neutre. Donc je trouve ça intéressant par rapport à la solitude, parce que justement, qu'est-ce que ça représente, tous ces nouveaux objets? Est-ce que ça, effectivement, ça fait partie de notre vie, mais est-ce qu'il faut les traiter comme des humains, ou est-ce qu'il faut les traiter comme des objets? Donc là, on est devant une vraie question.
Et est-ce qu'il faut les traiter comme des amis, ou est-ce qu'il faut les traiter comme des ennemis? C'est-à-dire, oui, qu'il faut s'en méfier, ou est-ce
pour
qu'il
autant,
faut...
est-ce qu'on leur parle bien ou pas bien? Est-ce que quand c'est des ennemis, est-ce qu'on leur parle plus mal? En tout cas, ces objets deviennent presque des humains.
En tout cas, face à la vidéosurveillance, au fichage biométrique, à la géolocalisation qui s'étend, beaucoup s'inquiètent aujourd'hui d'une société mise sous surveillance. La Commission européenne a adopté en mai dernier le règlement général de protection des données pour une tentative de régulation. On sait qu'on a aujourd'hui des data absolument partout qui circulent et qu'il faudrait potentiellement pouvoir encadrer, réguler et prendre conscience, je pense, chacun aussi, ce qu'indiquent plusieurs de vos auteurs, dont Alexandre Mignon et Sadek Belouif, de l'importance du traitement de nos données personnelles et de la manière dont elles peuvent être utilisées. Se pose aussi, au-delà de tout ça, la question de la transparence, et je vous propose d'écouter la dernière voix de l'un de vos auteurs, celle de l'avocat Mathias Chiche-Portiche, co-auteur avec Denis Oliven, aussi de Mortelle Transparence, sur cet idéal qu'on est en train de perdre.
Ce qui faisait la singularité de l'idéal de la transparence quand il a été créé pendant les Lumières, c'était l'idée qu'il fallait faire en sorte de rendre le pouvoir transparent pour éviter qu'à l'abri de l'opacité, il puisse exercer des pressions contre les citoyens. En même temps qu'on inventait la transparence des pouvoirs, on inventait la vie privée. Et l'un allait nécessairement avec l'autre. La confusion, elle vient du fait que la transparence, aujourd'hui, elle est non seulement réclamée pour les pouvoirs, mais aussi pour tout un chacun. Il faudrait que l'honnête homme puisse se présenter nu devant Dieu et ses semblables. Or ça, c'est une rupture. C'est une rupture parce que la vie privée, elle, doit continuer à être protégé. Le secret doit continuer à être protégé lorsqu'il est légitime, lorsqu'il préserve un espace de vie privé, c'est-à-dire qui n'a pas à être dévoilé. La question qui se pose, c'est jusqu'où nous pourrons résister à ce mouvement qui a tendance à vouloir tout dévoiler.
Et voilà, et Mathias Chiche-Portiche qui évoque aussi l'importance de ne pas confondre le droit et la morale. Où est-ce que vous placez le curseur, vous, sur cette question-là, Muriel Flistrève ?
Bien, je pense qu'effectivement, nous sommes tous sous vidéosurveillance, nous sommes tous géolocalisés, nous sommes tous hyper connectés. Alors, est-ce qu'il va falloir en venir à murer notre espace personnel et donner raison aux nostalgiques d'un monde d'avant ? Et c'est quand même étonnant, cette société où l'on poste sur son mur d'Internet 1000 indices personnels, 1000 traces qu'on donne à voir, tout en revendiquant la liberté de protéger son intimité. Et en même temps, on assiste un peu partout dans le monde à l'édification de frontières, de vrais murs renforcés par les technologies les plus pointues pour se fermer, pour empêcher l'autre, l'étranger, de pénétrer dans notre intimité. Et ça, je trouve ça très caractéristique.
Et cette réflexion est d'ailleurs née de cette réflexion collective, de ce constat paradoxal, hein, le fait que nous soyons tout à la fois tous voyeurs et épiés, avec dans cette double revendication à la fois d'une vie privée et d'une protection de son intimité, tout en ayant cette tendance à en dire de plus en plus et au plus grand nombre, ou à se laisser surveiller, ou à être surveillé malgré nous, des instincts narcissiques qui semble plus fort qu'auparavant, un besoin d'exister. Pour conclure, est-ce que vous avez le sentiment que cette question de l'intimité ou des intimités est éminemment politique aujourd'hui ?
Oui, mais je pense qu'il faut la repenser. Je pense que l'intimité n'est pas fermeture. Elle permet d'engager une relation avec quelqu'un qu'on a choisi, qu'on a nommé. Et sans cet accord, l'altérité devient une trahison. Et sans cette option, ça devient une solitude.
On a longtemps laissé cette intimité entre les mains de pouvoir instituer ou constituer, que ce soit l'État, l'Église, la famille, l'autorité du père. On a réussi avec les années, ce que raconte bien Michel Perrault, à se la réapproprier, à se créer un espace à soi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'intimité, nos intimités sont menacées, sont en danger et qu'on pourrait en être définitivement dépossédé et en plus consciemment ou volontairement ?
Oui, je pense qu'on est dans un moment de l'intimité en danger, absolument.
Ce ne sera pas une grosse perte ou ce sera une très grande perte ?
C'est une très grande perte.
pour l'avenir aussi. D'accord. Merci mille fois à vous, Muriel Flistrève, d'avoir été avec nous. Intimité en danger, ouvrage collectif que vous avez co-dirigé et qui vient de paraître donc au PUF, résultat d'un colloque que vous avez mené avec notre confrère René Friedman, le colloque Gypsy, et sur lequel vous avez travaillé cette année sur cette question de l'intimité. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. D'abord à Raphaël Bourgois, Chouchane Djergaillan et Jean-Christophe Brianchon qui ont tenu la maison pendant les fêtes, mais aussi à Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, à Mayan Escovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées. À la réalisation aujourd'hui, c'était Alexandra Candilonguet avec Dalid, Dali, Yaya. Très bel après-midi à tous.